Je sais pas si tout le monde va aller au ciel ou mais personne ne veut mourir. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Levez la main à qui ça évoque quelque chose. Ah, il y en a qui trahissent leur âge ici. En fait, en 1966, j'étais même pas au monde. C'est vrai, ma maman est là, elle peut en témoigner. En 1966, j'étais même pas au monde. Mais la chanteuse Petula Clark avait popularisé une chanson ayant pour titre « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Y en a-tu qui connaissent la chanson? Oui? Alors chantez avec moi, juste un petit bout. « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. » Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Merci, merci. Hey, on s'applaudit, vous êtes bons? Cette chanson a des paroles humoristiques, puis aussi un air joyeux et entraînant. D'ailleurs, je l'ai eu dans la tête toute la semaine, puis j'espère qu'aujourd'hui, ça va partir, parce que je suis vraiment tanné. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que, on revient au sérieux, cette chanson-là a des paroles humoristiques, un air joyeux et entraînant, mais en fait, elle cache une triste réalité. C'est que l'être humain est fasciné par l'au-delà depuis toujours, mais il ne sait pas comment dealer avec la pensée de l'éternité. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec la pensée du ciel, de l'enfer? Qu'est-ce qu'on fait à l'idée de la mort? Parce que vous savez, la vie, on ne s'en sortira pas vivant, là. On va tous passer par là, à part par l'enlèvement, mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi, tout le monde veut aller au ciel parce qu'on a un besoin inné à l'intérieur de nous de vouloir y aller. Mais la plupart des gens ont une peur terrible de la mort parce qu'ils n'ont aucune certitude de ce qui va se passer après. Alors ce matin, dans ma prédication qui a pour titre « Vivre à la lumière de l'éternité », c'est le sujet qu'on m'avait attribué pour la prédication de ce matin, « Vivre à la lumière de l'éternité ». On va regarder ensemble dans la parole de Dieu quelles réponses on peut trouver aux questions suivantes. Comment sera le paradis? Bon, évidemment, ce ne sera pas une étude exhaustive, mais on va quand même survoler pour avoir une bonne idée. Donc, comment sera le paradis? D'où nous vient cette fascination pour la vie après la mort? Qu'est-ce qui peut nous enlever la peur de mourir? Et comment vivre à la lumière de l'éternité? Et ce matin, c'est le premier message d'une série de cinq, comme Pasteur André vient de l'annoncer, sur le thème, dans le cadre de l'activité Libération 21, dont le thème est cette année le paradis. L'année passée, c'était les promesses de Dieu. Cette année, c'est le paradis. Et Libération 21, c'est une activité qui nous vient de l'Église baptiste Le Sentier à Gatineau. Et on trouvait que c'était intéressant comme concept, comme idée. Alors, depuis plusieurs années, l'Église ici a adopté cette idée. Évidemment, on l'adapte pour nous, mais on remercie l'Église Le Sentier à Gatineau de nous avoir prêté, de nous avoir donné accès à leur matériel. Je vais vous présenter maintenant qu'est-ce que c'est que Libération 21, rapidement. Donc, Libération 21, c'est un temps consacré à Dieu de 21 jours. Pour ça, le 21 dans Libération 21, durant lequel nous cherchons la face de Dieu et sa libération dans nos vies. Peut-être que ça fait longtemps qu'on est aux prises avec un fardeau, un poids, qu'on cherche la direction, la volonté, la face de Dieu sur quelque chose. Ah ben, dans le jeûne et dans la prière, libération est une belle façon d'y parvenir. Donc, durant 5 semaines, nous approfondirons que la recherche du paradis est la quête de tous les humains. Paix intérieure, sentiment d'être à la bonne place, accomplir ses rêves, contribuer à quelque chose de plus grand. Tout ça, ce sont des échos qui font partie de cette quête à l'intérieur que nous avons et qui nous pointent vers ce que nous cherchons. Ecclésiaste 3:11, qu'on va voir ce matin, nous dit, Il fait toutes choses, Dieu fait toutes choses belles au moment voulu ou en son temps. Il a mis même dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Et voici l'horaire. Donc, ce matin, c'est moi qui débute la série. Ensuite, il va y avoir pasteur André, il va y avoir pasteur Marc-Olivier et pasteur Joël. Donc, en groupe maison, nous aurons une série d'études. Il va y avoir Yvan aussi. Je pense que je l'ai sauté, mais vous l'avez vu sur l'écran. Il va y avoir... nous aurons une série d'études échelonnées sur 3 semaines. Et dans le guide, c'est ce qu'on va faire dans les groupes maison, avec les groupes maison, anciennement appelés les groupes vie. Ça va être axé sur le matériel qui est là, tout s'écrit « Gloire » et basé sur le psaume 29. Donc, Libération 21 est une occasion en or d'apprendre à connaître votre communauté chrétienne. Si vous n'avez pas de groupe, les groupes maison, nous vous invitons à en joindre un, comme pasteur André l'a annoncé. Et ça va se terminer avec une journée de jeûne et prière, de concert et de louange le 17 mars. Non, ça ne se terminera pas, mais ce dimanche-là, le 17 mars, il va y avoir une soirée de louange et prière ici à l'église. Donc, Libération 21 consiste en un jeûne de 21 jours. Nous vous invitons à vous abstenir des distractions autour de vous qui nuisent à votre santé spirituelle ou qui vous empêchent de passer du temps de qualité avec le Seigneur. Et vous savez, le jeûne, c'est pas tout le monde qui est capable de se priver de nourriture, des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Mais on peut quand même jeûner de différentes façons, en se privant des réseaux sociaux, de sport, de télévision, de jeux vidéo. Bref, le but, c'est de chercher la face de Dieu et sa libération dans nos vies. Alors, on revient au message de ce matin, mais juste avant, j'aimerais qu'on courbe nos têtes en prière pour remettre le restant, la continuité devant notre grand Dieu. Alors, Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée, qui est tellement un trésor extraordinaire. Merci parce que ta parole répond à des grandes questions existentielles. On va en voir quelques-uns ce matin de façon brève, mais quand même, ça va nous éclairer. Et Seigneur, on te prie de parler chacun de nous à nos cœurs ce matin. Puis je te prie d'être avec moi pour bien communiquer le message que tu as mis sur mon cœur. Seigneur Jésus, que tout se fasse pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Alors, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est comment sera le paradis. Une fois, c'était deux gars, deux grands amis qui étaient amateurs de baseball. Et là, les gars parlaient toujours de baseball ensemble. Et à un moment donné, ça vient sur le sujet, ils disent, « Hey, Bill, il va-tu avoir du baseball au ciel? » Ben, Joe, je ne sais pas, moi, s'il va avoir du baseball au ciel. Hey, ils ont fait un pacte. Le premier de nous deux qui va mourir va revenir dire à l'autre s'il y a du baseball au ciel. Right. Quelque temps après, il y en a un des deux qui mourut. Et quelques jours après l'enterrement, il apparut à son ami durant la nuit. Et là, il dit, « Bill, réveille-toi! » Joe, ce fait là! Ben, tu sais, je suis revenu à cause de notre entente, là. Tu voulais savoir s'il y avait du baseball au ciel? Oui, il y en a. Puis en même temps, je veux te dire que tu joues au deuxième but en fin de semaine. Je ne sais pas s'il va y avoir du baseball au ciel. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la chasse et de la pêche, mais... En fait, je ne crois pas qu'au ciel... On le verra rendu là, mais personnellement, je ne crois pas qu'au ciel, il va y avoir quelque activité quelconque qu'on aime pratiquer dans ce monde, parce que tout va être différent. Tout va être totalement différent. Puis, il y a une chose que je sais, c'est que si on a besoin de quelque chose pour être heureux, on va l'avoir, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on va être parfaitement heureux dans le royaume des cieux, avec le Seigneur. Et ça, ce n'est pas un de mes chums qui est revenu de l'au-delà qui me l'a dit. C'est la parole de Dieu qui l'affirme. Tournez avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 21. On va voir un passage qui nous en révèle beaucoup sur ce que va être le ciel. Apocalypse 21. On va lire les 4 premiers versets. Apocalypse 21, verset 1. La parole de Dieu se lit comme ceci. « Puis, « je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et remarquez bien le verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Ça vous dit quoi, ça, concernant le ciel? Hein? Ça dit que tout va être absolument parfait. C'était comme ça aussi au début de la création. Tout était parfait. Mais la Bible nous dit que, en Genèse 3, que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, à ce moment-là, le péché est entré dans le monde et a contaminé toute la création. C'est comme, essayez de vous imaginer l'image là, qu'on voit d'une bombe nucléaire. Vous savez, le champignon, là. Bon, la bombe saute, et là, il y a une onde de choc. On voit l'onde de choc, on voit ça dans des films là, apocalyptiques. Hein? Là, l'onde de choc arrive, puis tout est détruit autour. Bien, j'aime l'image qui me fait penser à... C'est comme ça que l'univers a été contaminé par le péché. Quand Adam et Ève ont désobéi au Créateur, pour la première fois, le péché est entré dans le monde et a contaminé toute la création. Ça s'est étendu partout. C'est depuis ce temps-là qu'il y a des maladies, des guerres, des cataclysmes naturels, des moustiques qui piquent. J'étais en Abitibi avant, mais je ne sais pas s'ils sont plus pécheurs que les autres, mais les moustiques, ils piquent. Je peux vous dire ça. Puis ultimement, la mort. Tout ça sont des conséquences du péché. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu promet d'arranger tout ça. Lorsque les temps seront accomplis, Dieu va d'abord purifier définitivement l'univers du péché et de ses conséquences. Puis ensuite, il va y avoir, comme on vient de lire, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce qu'on a lu, c'était l'apôtre Jean, qui, dans les dernières années de sa vie, alors qu'il était très âgé, a eu cette vision de l'avenir. Et Jean nous dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il nous raconte au premier verset, « Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc, il va se passer quelque chose. Et regardons ensemble ce que nous disent l'apôtre Pierre, mais aussi le prophète Ésaïe. En 2 Pierre 3, on peut lire, « Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres, les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et environ 800 ans avant l'apôtre Pierre, le prophète Ésaïe avait écrit, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. » Alors, toute la création sera un jour jugée et purifiée par le feu. À une époque, elle l'a été par l'eau, mais dans l'avenir, ça sera par le feu. Et dans la nouvelle création, tout va être parfait. Parce qu'Apocalypse 21,4 nous dit que Jésus essuiera toutes larmes de nos yeux et que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout ça aura disparu. Alors, à la question, comment sera le paradis, c'est-à-dire la demeure de Dieu où vivront tous ceux qui auront hérité du salut, eh bien, la Bible répond, absolument parfait. Tout va être absolument parfait. Puis savez-vous, moi, ce qui me réjouit, c'est que, vous savez, les hommes de science de toujours, puis moi, souvent, j'ai toujours aimé l'astronomie, et je me suis toujours dit, waouh, j'aurais aimé ça, être là quand Dieu a créé l'univers. De voir tout le ciel, les constellations, les galaxies, de voir... Malheureusement, je n'étais pas là, mais savez-vous quoi? On va être avec le Seigneur. Puis un jour, j'aime à penser que quand Dieu va refaire la nouvelle création, on va être au premier plan, assis en avant, à manger du pop-corn, à regarder comment est-ce que le Seigneur va créer tout l'univers à nouveau. Hein? Bon, il n'y aura peut-être pas de pop-corn, mais Peut-être, je ne sais pas. Et ce qui va être le plus merveilleux dans tout ça, c'est qu'on va être dans la présence de Dieu. Parce que la parole nous dit ici, « Il habitera avec nous et nous serons son peuple. » Nous le verrons face à face. Et à ce moment-là, on pourra contempler sa gloire qui va rayonner partout, parce qu'il n'y aura pas de soleil, c'est lui. C'est l'agneau, c'est la lumière de l'agneau qui va tout éclairer à cause de sa gloire. Et c'est surtout ça qui va nous rendre heureux, la présence de Dieu. Deuxième question. D'où vient cette fascination pour la vie après la mort? Depuis toujours, l'humanité est fascinée par l'au-delà. Et la plus grande preuve de ça, c'est les millions de religions qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Depuis les débuts de l'humanité, sur toute la face de la Terre, tous les peuples, toutes les cultures, toutes les civilisations se sont inventées d'innombrables religions pour essayer de retrouver la communion que l'homme a perdue avec Dieu dans le Jardin d'Éden. Parce qu'à cause du péché, nous sommes tous séparés de Dieu et l'accès au paradis nous est fermé. C'est d'ailleurs Adam et Ève qui ont inventé la première religion. Saviez-vous ça? Après avoir péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus et là, ils ont voulu cacher leur nudité avec des feuilles de figuier. Puis quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ben, ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient honte. La relation pure et parfaite qu'ils avaient eue avec Dieu avait été brisée à cause du péché. Et là, ils ont essayé par eux-mêmes, par leurs propres efforts, de se trouver à nouveau présentables devant Dieu en essayant de couvrir leur nudité. Mais ça n'a pas marché. Ils ont été chassés du paradis terrestre et n'y sont jamais retournés. Et depuis ce temps-là, l'humanité essaye de retourner dans le paradis. Par toutes les millions de religions. Bon, certaines religions sont absolument infâmes et sacrifient à des démons et tout ça, mais il reste que tout ça vient d'une fascination que l'on a à l'intérieur de nous de vouloir reconnecter avec l'au-delà. Et depuis ce temps-là, depuis le temps d'Adam et Ève, c'est l'histoire qui se répète. L'humanité essaye de retrouver sa place au paradis en s'inventant toutes sortes de religions, mais sans jamais y parvenir. Vous savez, malgré leur sincérité, il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein? Non, mais l'important, c'est de faire de son mieux puis d'être sincère. Vous savez, malgré leur sincérité, Adam et Ève ont fait des efforts, mais leurs efforts ont été insuffisants et ne convenaient pas à Dieu. En Genèse 3, 21, il est écrit, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » C'est Dieu qui a dû couvrir lui-même la nudité d'Adam et Ève d'une façon satisfaisante pour lui, temporaire à l'époque. Mais Dieu a dû tuer un animal pour ça. Et la Bible nous dit en Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors imaginez l'horreur. Vous êtes en Éden, dans le jardin d'Éden, où tout est parfait, tout est merveilleux. Et là, Adam et Ève désobéissent à Dieu, donc ça fait entrer le péché dans le monde, mais la Bible nous dit que pour que le péché soit pardonné, ça prend du sang. Adam et Ève ont essayé par leurs propres efforts, leurs propres mérites de cacher leur nudité, mais ça n'a pas convenu à Dieu. Dieu a dit non, c'est moi qui vais vous couvrir. Et là, Dieu a pris un animal. Il a fait mourir l'animal. Il a pris la peau de cet animal-là pour couvrir Adam et Ève. Imaginez l'horreur. La première fois qu'ils étaient confrontés à la mort, puis c'était à cause d'eux autres. Ça devait être épouvantable. Tout ça pointe évidemment vers la croix de Jésus. Parce que la Bible nous dit que, et c'est Jean-Baptiste qui nous l'a révélé, que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus s'est sacrifié pour que la justice de Dieu puisse couvrir nos péchés et notre nudité spirituelle devant Dieu. Parce que tout comme Adam et Ève, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Le pardon de nos péchés, c'est une grâce et un don de Dieu. Alors, on a beau être la personne la plus religieuse du monde, la meilleure intentionnée du monde, on ne parviendra jamais par nous-mêmes à être présentable devant Dieu. La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, essayez pas de vous mettre une feuille de figuier quand vous allez présenter devant le Seigneur, ça ne marchera pas. La seule chose qui va devoir vous couvrir, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et ça, on ne peut pas le mériter. On doit juste le recevoir. C'est un don de Dieu et c'est une grâce. Savez-vous que c'est une grâce? Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui nous est accordé. Et du début à la fin, ça, c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut rien faire pour ça. Bref, depuis le Jardin d'Éden, l'homme a multiplié les efforts religieux pour plaire à Dieu, mais sans jamais y parvenir. Parce que la justice de Dieu n'est satisfaite que par le sang de Jésus. Peut-être, là, vous me dites, oui, mais quand même, Jésus, il a fondé la religion, puis ensuite, on fait notre religion. Non. Jésus n'a pas fondé de religion. Jésus n'a fondé aucune religion. Jésus est venu abolir les religions. Les religions, quelles qu'elles soient, nous disent, fais ceci, fais cela. Puis peut-être, qu'un jour tu vas rencontrer la justice de Dieu. Mais non. Jésus a tout fait ce qu'il nous était incapable de faire. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Jésus est venu accomplir ce que les religions sont incapables de faire. C'est-à-dire nous couvrir de la justice et de la sainteté de Dieu par le sang qu'il a versé. Pour aller au ciel, il ne faut pas être religieux. Il faut avoir la foi en Jésus et avoir reçu le pardon de ses péchés par la grâce que Dieu nous donne. Pas que l'on mérite, on ne le mérite pas, mais que Dieu nous donne. Et c'est ça le vrai christianisme biblique. Si nos religions avaient pu nous sauver, je dis ça souvent, si nos religions avaient pu nous sauver, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Il aurait dit, arrangez-vous avec vos religions, vous savez ce que vous avez à faire. Mais c'est impossible. Alors le Fils de Dieu l'a fait à notre place. Cependant, tous les êtres humains essaient religieusement quand même d'y arriver parce que c'est plus fort que nous en tant qu'humains. On essaie de montrer qu'on est capable. On est orgueilleux. Non, Seigneur, écoute, je suis capable, m'a-t-il montré que je suis capable? Non. Vous savez, on a tous au plus profond de nous-mêmes un besoin inné de retrouver notre relation perdue avec Dieu, celle qu'on a perdue dans le Jardin d'Éden. Et c'est de là que vient cette fascination pour l'au-delà. Il y a un théologien dans le passé, au 17e siècle, du nom de Blaise Pascal. Il n'était pas juste théologien, c'était aussi un mathématicien, un philosophe, un homme de science bien connu. Il a écrit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Pascal avait réalisé qu'on a un besoin inné en nous de vouloir atteindre l'éternité, puis qu'on essaie de combler par toutes sortes de besoins, toutes sortes de façons. C'est un vide en forme de Dieu qu'on essaie de combler, mais il y a juste Dieu qui peut le combler. Quand mes enfants étaient petits, là, il y avait cette boule en plastique, là, un côté rouge, un côté bleu, avec toutes sortes de formes. Là, puis on rentrait la lune dedans, le rond. Essayez pas de rentrer une des formes dans une place que ça ne marche pas. Ça ne rentrait pas. Il fallait vraiment avoir la bonne forme dans le bon trou. Mais dans le cœur de l'homme, il y a ce vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. Essayez pas de le combler avec autre chose, ça ne marchera pas. Puis la raison de ça, c'est parce que la Bible nous dit que ce vide-là qui est en dedans, c'est lui qui l'a mis. Oui, on va essayer de le combler, mais on n'y arrivera pas. C'est Dieu qui doit le combler. Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu, qui fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Donc, cette fascination-là pour l'au-delà que nous avons, nous vient de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu a déposé ça dans nos cœurs afin qu'on le cherche et qu'on soit réconcilié avec lui. Mais pas réconcilié en faisant une religion, mais par la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a aucune façon pour nous d'être réconciliés avec Dieu. C'est de là que nous vient cette fascination. C'est ce vide en forme de Dieu que Dieu lui-même a mis dans notre cœur, afin qu'on le cherche, parce que Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui. Donc, il a déposé la pensée de l'éternité dans nos cœurs, qui fait qu'on est fasciné par l'au-delà. On a un besoin inné en dedans de nous, plus fort que nous, qui nous dépasse, qui nous cherche à retrouver cette connexion, cette relation perdue avec Dieu. Maintenant, si tu fais partie de ceux qui veulent aller au ciel mais qui ont peur de mourir, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est qu'en Jésus, tu peux cesser d'avoir peur. Amen. Ça m'amène à la troisième question. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous enlever la peur de mourir? Il y a longtemps, moi aussi, j'avais peur de mourir et je cherchais à connaître la vérité. Je m'informais à gauche et à droite. Je posais des questions. Je lisais. Il y a des gens qui me disaient que la Bible n'était pas vraie. D'autres me disaient qu'on ne peut pas être vraiment sûr d'aller au ciel. Il y a déjà une dame qui m'a dit que j'étais prétentieux. Bon, des années plus tard, quand j'ai connu Jésus, une dame m'avait dit, « T'es prétentieux, toi, mon petit jeune, de dire que tu peux aller au ciel. Il n'y a personne qui le sait. » Vous savez, le témoignage des gens qui est basé sur leur religion ou sur leur propre conception de la vie, leur propre conception de l'au-delà, etc., tout ça, c'est sans espoir et sans aucune certitude. Et c'est vrai que quand on se base sur nos propres pensées, on peut être prétentieux et orgueilleux, tout à fait. Mais un jour, j'ai entendu un autre témoignage. Un témoignage d'espoir et de vérité basé pas sur la pensée humaine, mais sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu lui-même affirme. Et voici quel est ce témoignage. Dans la parole de Dieu, l'apôtre Jean écrit, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, mais qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui quoi? Croyez. Croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alors, sur quel témoignage on doit se baser pour avoir la certitude de la vie éternelle? Sur celui des religions? Celui des hommes? Non. La parole de Dieu dit dans un autre passage, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Mais elle dit aussi, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. C'est une certitude. Est-ce que Dieu est menteur? Plus fort que ça. Est-ce que Dieu est menteur?
Non.
Alors pourquoi on ne le croit pas? Ce témoignage nous vient de Dieu lui-même, qui nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Et il nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est une certitude. Est-ce que c'est prétentieux de savoir qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ? Non, ce n'est pas prétentieux. C'est de croire Dieu quand il dit, je vous dis que vous avez la vie éternelle si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Il me semble que c'est clair. Ce n'est pas prétentieux. C'est la foi. En Romains 10, 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un m'a dit une fois, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas la Bible. Ben, c'est contradictoire, parce que la Bible a dit que si tu ne crois pas en la Bible, tu n'as pas la foi. Et dans cette Bible, dans cette parole que Dieu nous a laissée, il nous donne la certitude qu'on peut aller au ciel. Non pas par nous-mêmes, par nos propres œuvres, nos propres efforts, mais en plaçant notre foi, notre croyance tout entière dans la personne du Fils de Dieu, en Jésus qui, lui, a tout accompli à notre place. Et on n'a aucun mérite, aucun, même pas l'ombre d'un mérite. Tout vient de lui. Il a tout fait du début à la fin. Et tout dépend de lui. Et celui qui a ce témoignage en lui-même a la vie éternelle. Il y a déjà que j'ai entendu quelqu'un une fois me dire qu'il n'y a personne qui était revenu de l'au-delà pour nous dire comment c'était vraiment de l'autre côté. Ben, c'est faux. Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre. Le Fils de Dieu est venu dans le monde pour témoigner de la vérité et nous enseigner à vivre à la lumière de l'éternité, en nous enseignant les vraies choses, en nous donnant l'espoir. Le monde a besoin d'espoir aujourd'hui. Et Jésus est venu apporter cet espoir. Et cet espoir, il est là, à notre portée. On n'a qu'à le saisir par la foi et la grâce. Puis la seule chose qui puisse nous enlever la peur de mourir, puis la remplacer par un espoir si grand que des millions de vies en ont été changées, dont la mienne, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et voici ce témoignage, nous dit le verset 11. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, avec certitude, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alors, Dieu témoigne avec certitude qu'on peut avoir l'assurance de la vie éternelle et la certitude d'aller au ciel si on place notre confiance en lui, en Jésus, et en Jésus seul pour le salut de notre âme. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? On n'a rien à faire. Jésus a déjà tout fait. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre un fardeau religieux. Je n'ai pas besoin de me contraindre à monter ou à descendre des marches à genoux en faisant toutes sortes de prières vaines. Je n'ai pas besoin de m'imposer quoi que ce soit. J'ai simplement besoin de donner ma vie à Jésus-Christ en acceptant qu'il a tout fait à ma place. Et c'est ça qui rouvre les portes du ciel. Et c'est ça qui va nous donner l'assurance de la vie éternelle et qui va faire en sorte qu'on n'aura pas peur de mourir parce que notre foi repose sur la confiance de la parole de Dieu qui nous dit qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et ça, c'est une certitude. Vous savez, chaque jour nous rapproche de l'éternité, soit du ciel, soit de l'enfer. Le salut de notre âme devrait donc être la priorité de notre existence sur la terre. Est-ce que votre âme est en sécurité dans les mains de Jésus? Est-ce que vous prendriez un billet d'avion, un aller simple, avec aucun espoir de retour, sans savoir où l'avion va atterrir? Alors, pourquoi risquer d'affronter l'éternité sans savoir où on va aboutir? C'est insensé. C'est insensé. Mais vous savez, au ciel, il n'y a personne qui va être là contre son gré. Il n'y a personne qui va être là de force. Ceux qui vont être là vont avoir été intentionnels. Et parce qu'ils ont placé leur foi en ce que Jésus a fait sur la croix et rien d'autre. Chaque jour nous rapproche de l'éternité. Lancez-vous pas dans l'éternité sans savoir où vous allez atterrir parce qu'il n'y a pas de retour possible. La parole de Dieu nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. Et ce jugement-là, il est irrévocable. Oubliez les limbes. Oubliez le purgatoire. C'est des inventions humaines qui n'ont aucun fondement biblique. c'était une chose pour faire de l'argent au Moyen Âge. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça semble de même. Est-ce que votre âme est en sécurité dans les mains de Jésus? C'est ce que je veux vous demander ce matin. C'est ce que j'aimerais que vous demandiez vraiment et personnellement ce matin. Parce que si Jésus n'est pas votre sauveur, votre destination, c'est l'enfer. Ce n'est pas populaire aujourd'hui de parler d'enfer, mais moi, ça ne me dérange pas. Le Seigneur ne me demande pas de prêcher pour être populaire. Il me demande de prêcher la vérité. Et c'est ce qu'on fait dans cette église ici. Tous les enseignants de cette église, on prêche la vérité. Parce qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre devant Dieu de ce qu'on va avoir dit. Alors, on ne va pas dire n'importe quoi. C'est dommage. Parfois, on peut prêcher des choses qui déplaisent aux gens, qui les froissent, mais on vous aime assez pour dire les vraies choses. Ce que la parole de Dieu dit. On ne parle pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nos pensées, c'est la parole de Dieu qui parle. On ne fait que vous le dire parce que vous avez le droit de savoir. Puis moi, je bénis tellement le Seigneur qu'un jour, quelqu'un m'a dit la vérité. Parce que cette vérité a changé mon existence, a changé ma vie. Ces personnes-là qui m'ont parlé n'ont pas eu peur de me déplaire. Parce qu'ils m'aimaient assez, qu'ils voulaient que mon âme soit sauvée, alors ils m'ont dit les vraies affaires. Et les vraies affaires, c'est ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le choix dépend de vous. Même si c'est Jésus qui a tout fait, on a quand même la responsabilité de répondre. Allez-vous répondre ce matin à l'appel de Dieu? À la question, qu'est-ce qui peut nous enlever la peur de la mort et nous assurer d'aller dans la bonne destination? La réponse, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors, il n'y a personne qui va aller au ciel par chance ou par ses propres efforts. Le paradis est accessible d'une seule façon, c'est par la foi, mais aussi la repentance. Croire que Jésus est venu accorder notre salut, c'est une chose, et c'est vrai, et il faut le croire. Mais si on ne se repent pas de nos péchés devant Dieu, on n'aura pas accès à ce salut. Ça prend la repentance, et ça aussi, ce n'est pas un langage populaire aujourd'hui. Mais Jésus prêchait la repentance. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Et depuis 2000 ans d'histoire de l'Église, les prédicateurs qui prêchaient la vérité ont prêché la repentance. Parce que c'est la repentance qui fait la différence. C'est en regrettant sincèrement nos péchés devant Dieu et en lui demandant de nous pardonner qu'il va le faire. Parce que un évangile sans repentance, c'est un faux évangile. Et un faux évangile, ça fait des faux chrétiens. Qui que tu sois ce matin, si tu veux aller au ciel puis pas avoir peur de mourir, repens-toi de tes péchés devant Jésus. Demande-lui dans ton cœur sincèrement pardon pour tout ce que tu as fait et crois en ce qu'il a fait. Crois que sa mort et sa résurrection ont servi à accomplir ce qui nous était impossible. Jésus est mort avec nos péchés et il est reçu parce que la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est pour ça qu'on meurt. Mais vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas grand garantie non plus. Mais Jésus est ressuscité, pourquoi? Pour nous prouver qu'il avait vaincu la mort. Donc, qu'il avait annulé la puissance du péché. Parce qu'un sauveur mort, ça ne donne pas la vie. Mais Jésus est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Alors, c'est en lui qu'on doit placer notre confiance pour avoir la vie éternelle. Et il la donne à tous ceux qui se repentent devant lui et qui acceptent par la foi que le seul moyen d'accès au paradis, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez fait ce pas de foi ce matin? Je vous invite à le faire parce que c'est la plus grande décision que vous aurez à prendre de toute votre vie. Confessez à Dieu votre péché. Demandez-lui sincèrement pardon. Et là, dites-vous pas, oui, mais moi, j'en ai trop de péchés. Ou mon péché est trop grave. Sachez que la grâce de Dieu est plus grande que le plus grand de vos péchés et que la somme de vos péchés. Ce que Jésus a fait à la croix, là, c'est plus grand que tout. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors n'hésitez pas à aller à lui et lui donner votre vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et je crois sincèrement que ce que tu as fait à la croix, c'est le seul moyen pour moi d'aller au ciel. Et si vous faites ça de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, le Saint-Esprit de Dieu va venir habiter en vous. Et là, vous n'aurez plus peur de mourir parce que vous aurez la certitude de la vie éternelle. Y en a-tu qui ont fait ce pas-là ce matin? Levez la main. Levez la main. Levez la main aussi ceux qui, dans le passé, ont fait ça. J'aimerais savoir, voir les mains levées de tout ce matin. Comme ça, je suis pas une hurluberlu, moi, là. Hein? Je suis pas tout seul de ma gang. Il y en a beaucoup qui ont cru au message de l'Évangile. Et c'est ça, le message de l'Évangile. Et ce message, c'est pour chacun de nous qui veut bien le recevoir avec foi et repentance. Maintenant, dernier point. Comment on fait pour vivre à la lumière de l'éternité? Tourne avec moi dans la deuxième épître de Pierre. C'est écrit Éphésiens 2,19 à l'écran, mais c'est parce que j'ai oublié de changer la référence. C'est 2 Pierre 3, 11 à 14. Marco va parler dans deux semaines de Éphésiens 2,19. Je vais lui laisser ça. Donc, 2 Pierre 3, 11 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et portez attention au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Chrétiens, nous qui savons que le monde qu'on connaît est voué à disparaître, et nous qui avons l'espérance vivante d'un monde parfait où il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrances d'aucune sorte, et même où la mort aura disparu, où la justice sera parfaite. Nous qui savons ça, vivons notre vie terrestre à la lumière de l'éternité. Parce que c'est ça que Jésus nous appelle et c'est ça notre héritage. Cessons de faire des compromis avec le péché. Et recherchons par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit à être les ambassadeurs du royaume des cieux que Dieu veut que l'on soit pour lui sur la terre. Parce que c'est ce qu'on est, frères et sœurs en Jésus-Christ, des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Amen. Quand un chrétien se comporte mal, c'est le nom de Jésus qui est sali. Quand un chrétien vit en fonction des valeurs de ce monde qui vont à l'encontre de celles de Dieu, c'est la perfection du royaume de Dieu qui est ternie. Quand un chrétien vit comme s'il n'était pas un chrétien, les gens ne veulent pas entendre parler du salut et ils meurent dans leur péché. Chrétiens, vivons à la lumière de l'éternité en remerciant Dieu chaque jour pour ce si grand salut qu'il nous a accordé. En vivant dans l'attente glorieuse de l'avènement du royaume de Dieu dont nous sommes les héritiers en Jésus-Christ. En affrontant les épreuves de la vie avec les promesses et la force que nous donne la parole de Dieu. Vivons à la lumière de l'éternité en vivant non pas d'une manière religieuse, mais d'une manière à refléter la transformation intérieure que le Saint-Esprit produit en nous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, vivons à la lumière de l'éternité parce que notre vraie patrie, c'est le ciel et que nous sommes des voyageurs en ce monde. Alors, appliquons-nous à chercher la sainteté à laquelle Dieu nous appelle parce que c'est pour sa gloire à lui Évidemment, c'est un processus de toute une vie, là. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Parce que c'est ce que Dieu veut. Puis ce qui nous manque, au final, Dieu va nous le donner tout d'un coup. Mais en attendant, on doit persévérer. On doit combattre le bon combat. On doit poursuivre jusqu'au bout. Vivons à la lumière de l'éternité parce que notre vraie patrie, c'est le ciel. Évidemment, ce n'est pas toujours facile parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. C'est donc à genoux qu'on doit lutter, en s'approchant régulièrement du trône de la grâce et s'appliquer à rechercher la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, mais aussi pour être secouru dans tous nos besoins. Pourquoi on doit s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans tous nos besoins? 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Peu importe la forteresse qui se dresse devant nous, chrétiens. Peu importe la difficulté, le péché auquel on est confronté et avec lequel on doit lutter sans cesse. Peu importe les rires moqueurs qu'on doit supporter. Et dans certains pays, même des grandes persécutions. Merci Seigneur, on n'a pas ça au Québec. Mais il y a des gens ici, je pense, qui peuvent témoigner. Ils ont vu des persécutions dans leur pays, n'est-ce pas? Mais peu importe les forteresses qui se dressent devant nous. Par la grâce et la puissance de Dieu, dans la prière, en s'approchant du trône de Dieu, en mettant notre pleine confiance en Jésus-Christ, on peut tout supporter. La Bible nous dit que Dieu ne permettra jamais une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Et quand on croit ça, on vit à la lumière de l'éternité. Parce qu'on affronte l'épreuve avec la lumière de l'éternité que nous donne la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Alors, chrétien, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne devrait pas être là ce matin, confesse-le à Jésus. Débarrasse-toi de ça ce matin. Saisis par les promesses de la parole de Dieu, les puissances spirituelles, les armes spirituelles que tu as besoin pour t'en débarrasser. Dépose tout ça au pied du trône de la grâce. Demande à Jésus de te donner la victoire ce matin. Confesse ton péché, mon frère, ma sœur. Confesse ta peine. Confesse, libère-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer avec Jésus. Libère ses chaînes. C'est comme de traîner un boulet après nos pieds avec une chaîne puis qu'on a la clé dans nos poches. La clé, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière qui nous vient d'éternité. Libérez-vous, puis continuez à avancer. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes, pas timides, puissantes, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et vous savez, je ne vous regarde pas de haut quand je dis ça, je suis concerné aussi. J'ai mes propres luttes, mes propres péchés à combattre et à confesser régulièrement. Mais je sais une chose. C'est que je peux y arriver à cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Et vous savez, Libération 21, et je termine avec ça, Libération 21 qui débute cette semaine est une belle occasion pour nous dans le jeûne et la prière de rechercher la délivrance dont on a besoin, celle qui nous enchaîne et qui nous empêche de vivre à la lumière de l'éternité, comme des héritiers du royaume des cieux, comme des fils et des filles du roi des rois, comme ceux qui vont hériter d'un pays, d'un royaume où il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, où la douleur aura disparu, et même la mort. C'est ça notre héritage céleste, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Alors vivons à la lumière de ça et en fonction de ça. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans nos vies. Et Libération 21, c'est un beau temps pour prier avec des frères et sœurs dans les groupes maisons. À jeûner, à prier, à confesser nos péchés les uns aux autres. À chercher la face de Dieu ensemble. À pleurer ensemble s'il le faut. Mais à s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Parce que vous savez, l'Évangile, oui, c'est le salut. C'est premièrement le salut. Et c'est peut-être que c'est ça que vous avez besoin. Peut-être que vous m'écoutez ce matin et c'est de ça que vous avez besoin, premièrement, du salut. Ah ben, pourquoi ne pas vous joindre à un groupe de Libération 21 et puis demander aux gens de vous aider à cheminer vers la croix où le sang de Jésus vous couvrira? Ça peut être autre chose. Un coup qu'on est chrétien, on a toutes sortes de luttes. Mais l'Évangile, vous savez, c'est pas simplement le salut. L'Évangile, c'est comment appliquer la parole de Dieu sur tous les aspects de notre vie pour nous donner la victoire dont on a besoin. Dans toutes les situations. La parole de Dieu regorge de promesses, d'assurances qui nous viennent de Dieu. Et Dieu n'est pas menteur. L'homme est menteur, mais Dieu n'est pas menteur. Alors c'est à lui qu'il faut aller pour trouver la vérité. Et c'est Dieu qui va nous donner ce qu'on a besoin pour vivre à la lumière de l'éternité. Et si un jour vous entendez la chanson « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir », souvenez-vous que c'est par Jésus seul qu'on peut aller au ciel. C'est par Jésus seul qu'on peut vaincre la peur de mourir. Et c'est par Jésus seul qu'on obtient la vie éternelle. À lui soit la gloire. Levons-nous, on va prier ensemble. Seigneur, merci tellement pour ta parole. Merci tellement pour ta parole qui nous montre comment combler ce vide en forme de Dieu qu'on a à l'intérieur de nous. Pour ta parole qui nous montre comment être réconcilié avec toi. Pour ta parole, Seigneur, qui nous dit que c'est par la repentance et par la foi qu'on peut l'être. C'est par ta parole qu'on obtient les promesses et l'assurance de tout ce qu'on a besoin pour ne plus craindre la mort. Et c'est ta parole qui nous révèle qu'en toi, Seigneur Jésus, on est des fils et des filles du roi des rois, qu'on est héritier du royaume de Dieu. Puis que, Seigneur, je ne sais pas s'il va y avoir du baseball au ciel, mais je sais une chose, c'est qu'on aura tout ce dont on a besoin pour être pleinement heureux. Et je crois que tout ce qu'on aura besoin pour être pleinement heureux, c'est d'être dans ta présence. Seigneur Jésus, je te prie pour cette assemblée ici ce matin, et puis ceux qui nous regardent via Internet, que tu sois avec chacun de nous, là où est notre besoin, que tu nous rencontres, Seigneur, que ce soit pour le salut, pour une délivrance, et que cette période de libération 21, ou dans les prochaines semaines, on va chercher ta face ensemble, dans le jeûne, dans la prière, qu'on puisse trouver la délivrance dont on a besoin. Et Seigneur Jésus, que tout se fasse pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.